Nous entamons maintenant la troisième présentation qui est sur l'épisode de la Côte de la Famille par M. Ismaël Famata, un journaliste de l'Office Radio-Télévision du Mali. Merci.
Bonjour, mesdames et messieurs. Mon nom est Ismaël Famata, comme cela vous a été dit. Je suis journaliste à l'Office de Radio-Télévision du Mali. Et en même temps, présentement, j'ai préparé une thèse en sociologie. Donc, mon intervention va porter sur l'historique du code malien des personnes et de la famille, dont vous avez déjà eu un avant-goût. C'est un thème qui n'est pas forcément ou directement lié à la mortalité maternelle, mais il pourrait l'être si on prend en compte le fait que la mortalité maternelle est un problème global auquel concourent plusieurs facteurs. Donc, pour parler de l'historique du code malien des personnes de la famille, il faut remonter déjà à l'indépendance. Il faut remonter à l'indépendance du pays, à l'accession du pays à l'indépendance, où déjà les premiers dirigeants s'étaient déjà attaqués au problème d'inégalité, aux situations d'inégalité et d'immarginalisation de la femme malienne, et lesquelles se trouvaient, malgré tous leurs efforts qu'elles ont joués pour la libération nationale, se trouvaient dans des situations inéquitables. Donc c'est donc eu égard à cet objectif majeur que la Constitution de 1960 a posé pour la première fois les principes de l'égalité entre hommes et femmes. Un peu plus tard, jusqu'à l'adoption de la loi 61-55 de 1961, portant organisation judiciaire de la République du Mali nouvellement indépendante, les affaires civiles et commerciales relevaient des juridictions indigènes qui appliquaient simplement la coutume des parties. Deux ans plus tard, après l'accession à la souveraineté nationale, et en 1962, on va prendre un code nommé Code des mariages et des tutelles. Ce code fut l'aboutissement des multiples concertations qui avaient pour but d'épouser la citoyenneté malienne naissante et d'intégrer les aspects positifs de la législation coloniale. Ce code, en son temps, fut jugé vraiment révolutionnaire, car ayant largement combattu, entre autres, atteinte à la dignité de la femme, par exemple la répudiation ou les mariages forcés. Cependant, des vides juridiques persistaient, et persistent encore. Entre autres, il n'y a pas de loi relative aux substitutions en droit malien. C'est toujours une disposition du Code de procédure civile, un texte colonial d'ailleurs qui date de 1831, qui autorise l'application par les tribunaux de la coutume des parties pour le partage. Et cette pratique est en contradiction avec l'article 45 du Code des mariages et des tutelles, lequel article abroge, par exemple, les coutumes et autres statuts locaux qui régissent les diverses ethnies au Mali. Donc, de ce fait, l'insécurité juridique perdure sur la matière de succession, notamment sur la part réservée à la femme en général et à la veuve en particulier. Donc, c'est dans ce contexte qu'interviendront ensuite une codification et des lois nouvelles, en l'occurrence le code de la parenté et l'ordonnance sur la filiation. Droit de la famille. Au Mali, le droit de la famille ne fait pas l'objet d'un texte unique, mais de plusieurs textes, notamment la Constitution et plusieurs autres textes juridiques comme le code de parenté, le code de mariage et de tutelle, le code foncier, le code domanial, entre autres. Il y en a beaucoup. Et hier comme aujourd'hui, elles sont nombreuses, ces femmes, à se plaindre de leur situation au quotidien dans leur foyer. Mais sous le pas d'une société très traditionnaliste et craignant qu'on les regarde par très hostile de la famille, la plupart de ces femmes-là n'osent pas hausser les tons et préfèrent souffrir en silence. Et toujours, elles sont nombreuses, assez pleines de cette situation, mais les femmes de Bamako, il faut le dire, depuis quelque temps, sont quelque peu favorisées par rapport à leurs concerts de l'intérieur, parce qu'il y a des structures qui sont créées à Bamako, comme la clinique juridique, où beaucoup de femmes ont l'opportunité de venir exposer leurs problèmes, et cette clinique juridique les assiste souvent dans leurs entreprises. Tout dernièrement, il y a un journal qui a fait un article intéressant sur cette clinique juridique-là, où on a pu recueillir plusieurs témoignages, entre autres. Je vais vous lire certains de ces témoignages. Et à mon mari me menace de divorce si je n'arrête pas mes activités génératrices de revenus, c'est-à-dire les petits commerces. Il m'avait obligé d'abandonner mon travail de secrétaire, alors qu'il lui arrive souvent d'être en difficulté raconte une plaignante. Une seconde femme se plaint aussi. Je suis victime de pression de la part des parents de mon défunt mari. Ils soutiennent que je n'ai aucun droit sur l'héritage puisque les biens appartiennent à la grande famille. Pire, ils prétendent que je dois épouser le jeune frère de mon époux car ce serait la famille qui aurait payé la dot de mariage. Ça, c'est une seconde femme. Une troisième femme qui était venue demander conseil aussi à la clinique juridique. Mon époux m'impose d'aller habiter dans une maison qu'il a louée, loin de mes enfants, sous prétexte des travaux de réparation dans ma chambre. Mes enfants ont proposé de me laisser leur chambre pendant ce temps, mais il a refusé. Il refuse même que j'aille habiter dans ma propre maison que j'ai mise en location à Kalabankoro, qui est un quartier de Bamako. Cependant, ma co-épouse, elle reste bel et bien. Cet homme est simplement jaloux de mes avoirs et veut me faire souffrir en usant de son pouvoir de chef de famille qui choisit les domiciles conjugaux. Donc, comme on le voit, c'est dire que ces femmes sont dans des situations vraiment difficiles. Et il faut dire que toutes les constitutions du Mali, adoptées depuis 1960, n'ont cessé de prôner le principe de l'égalité homme-femme. Mais il faut dire que ces constitutions sont souvent en déphasage avec la réalité pratique. Et la constitution du 25 février 1992 va plus loin, lui, en s'engageant à défendre les droits de la femme et de l'enfant, en souscrivant à la Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples du 27 juin 1981, tout en ayant une pensée juste pour toutes ces femmes et enfants dont le rôle fut déterminant dans l'avènement du pluralisme politique et de la démocratie. Aussi, conformément aux résolutions de 1991, la conférence nationale de juillet 1991 s'est posée l'opportunité d'une réforme du droit de la famille au Mali. Et en 1996, le secrétaire exécutif de la coordination des associations et ONG féminines CAFO a pris une initiative originale. Elle a entrepris des démarches auprès des autorités pour la relecture de certains textes jugés discriminatoires à l'égard des femmes. Et en 1998, deux ans plus tard donc, date à laquelle remonte directement l'actuel code qui est l'objet de toutes les tensions, donc le gouvernement charge le ministère de la promotion de la femme et de l'enfant qui venait d'être créé de conduire un vaste chantier de réforme du droit de la famille impliquant toutes les sensibilités nationales. Des concertations régionales sont ainsi organisées ici et là, courant 2000, et une synthèse est faite en 2001. Toutes ces rencontres vont permettre à toutes les sensibilités nationales de s'exprimer sur les différents sujets, l'objectif étant d'avoir un texte consensuel qui sera appliqué, car est répondant aux aspirations de la population, en tout cas dans sa grande majorité. Et cet exercice va accoucher d'un projet de code des personnes et de la famille qui sera soumis au Conseil des ministres, qui l'adopte le 22 mai 2002, mais après cette adoption par le Conseil des ministres, il va suivre une période morte de 3 ans. En 2005, une commission chargée de finaliser ce projet a été mise en place. Elle a été créée par une décision du ministère de la Justice et en date du 10 janvier 2008, sur l'instruction du chef d'État lui-même, en vue d'enrichir et d'améliorer les 10 projets de corps tout en conciliant modernité et valeurs traditionnelles. La commission devait par ailleurs tout au long du processus avoir à l'esprit la place et le rôle éminents qui sont ceux du Mali dans le concert des nations en matière de promotion de démocratie, de la bonne gouvernance et des droits de l'homme. Et le jeudi 22 mai 2008, la présidente de la commission va remettre ce rapport au président Amadou Toumani au cours d'une cérémonie officielle. Il s'agit de ce projet de code des personnes et de la famille qui comporte 1143 articles qui rassemblent dans un document unique les règles relatives aux personnes, au mariage, au régime matrimonial, à la filiation, à la parenté et à l'alliance, à la protection des incapables, aux successions, aux donations entre vifs et aux testaments. Et il y a eu des innovations dans ce projet de texte. Entre autres, l'âge au premier mariage est fixé à 18 ans aussi pour l'homme que pour la femme. Dans le domaine de la filiation, outre les changements de terminologie en ce qui concerne les enfants naturels, adultérins ou incestueux, les règles relatives à l'établissement de la filiation des enfants nés hors mariage, telles que la reconnaissance, les deux aveux, la légitimation, ont été revues. La pleine capacité juridique de la femme à l'instar de l'homme dans les mariages. Les dispositions relatives aux successions qui donnent à toute personne la faculté de décider de son vivant par écrit du mode de règlement de sa succession au besoin selon un droit religieux ou coutumier. À défaut de l'exercice de cette faculté, les dispositions relatives à la succession telles que réglées par le présent code sont appliquées. Ensuite, il y a l'institution de la possibilité par la femme d'hériter des terres de son mari défunt. Il y avait des points de discorde aussi Il y avait des points, comme l'a dit le président et la présidente de la commission à l'occasion de la remise du rapport, des points qui n'ont malheureusement pu faire l'objet de consensus. Il s'agit notamment des dispositions relatives à la sanction du ministre du culte en cas de célébration du mariage religieux avant la célébration du mariage civil. La filiation naturelle et ses modes d'établissement, la qualité d'héritier de l'enfant naturel officiellement reconnue par son père dans la succession de celui-ci. Et plus tard, sur le plateau de la télévision nationale, le ministre de la Justice revenait de manière plus détaillée sur les préoccupations du Haut Conseil islamique, à savoir l'abandon de la sanction du ministre du culte pour la célébration religieuse du mariage avant le mariage devant l'officier de l'État civil, l'application du droit musulman en matière structurelle, l'obligation pour la femme travailleuse de contribuer aux charges du ménage et la fixation de l'âge du mariage à 18 ans. Sur le même plateau, indiquait le ministre de la Justice, les préoccupations du monde musulman ont été largement prises en compte dans le nouveau code. Ainsi, le 3 août 2009, un premier projet de code est présenté et adopté par l'Assemblée nationale du Mali. Son adoption représentait un pas fondamental vers la mise en conformité de la législation nationale avec les obligations régionales et internationales auxquelles le Mali a souscrit. Mais avant la promulgation par les chefs de l'État de ce code, de cette loi, le Haut Conseil islamique a organisé un peu partout sur le territoire des marches de protestation souvent gigantesques. Le seul meeting de Bamako a mobilisé quelques 50 000 personnes, selon certaines sources. Le président du Haut Conseil islamique, Mahmoud Diko, dénonçait un code, je cite, « inspiré de l'Occident qui veut métamorphoser la société malienne avec des valeurs soi-disant universelles. » Mais il se demande, on ne sait pas qui leur a conféré cette universalité. Et M. Diko juge le code inadapté aux valeurs maliennes et fabriqué par la prétendue société civile financée par les Occidentaux. Ce sont ses propos. Ensuite, des activistes musulmans vont continuer à mettre la pression, à proférer des menaces à l'endroit des députés qui oseraient voter en faveur du code. Une cassette audio est même produite, réalisée par un prêcheur de la place et diffusée à large échelle. Dans cette cassette, les prêcheurs profèrent toutes sortes d'insultes, de dénigrements, tant à l'endroit du président de la République que du Premier ministre, même du président, et même du président de l'Assemblée nationale. Au bout du compte, le Haut Conseil va remporter une première victoire, si on peut dire, car pour calmer la tension, le président va décider de renvoyer les textes en seconde lecture à l'Assemblée nationale. Et pendant ce temps, une certaine accalmie va suivre, mais un peu plus tard encore, il y a un imam d'une ville proche de Kati, la ville de Kati, qui déclarait ne pas comprendre en quoi ce code porte atteinte à nos valeurs socioculturelles et à l'islam. Et cela n'a pas été vu d'un bon oeil par les islamistes. L'imam en question a été, selon certains médias, déclaré ennemi de Dieu par un regroupement d'imams et accusé de trahison par la Ligue malienne des imams et érudits. Des menaces de mort auraient même été proférées à son encontre et il aurait simplement préféré quitter la ville pour une destination inconnue. Et le 4 octobre 2010, le Haut Conseil islamique va remporter, si l'on peut dire, une deuxième victoire, du moins une demi-victoire. En effet, à l'ouverture de la session parlementaire d'octobre, dite session budgétaire, le président de l'Assemblée nationale, dans son allocution introductive, a affirmé que le projet de code des personnes et de la famille serait voté lors de cette session avec des retouches importantes. Selon lui, plusieurs articles et textes du texte ont été clarifiés, préciser ou reformuler. On note quelques changements majeurs, entre autres, la réintroduction du mariage religieux, la suppression de la filiation naturelle, c'est-à-dire la reconnaissance de l'enfant naturel, ou encore la reformulation de l'article 748 sur les droits de succession, c'est-à-dire l'égalité homme-femme devant la succession. Et cette déclaration du président va susciter des remous au sein de la société civile, et en l'occurrence, les barreaux maliens, l'Association malienne des droits de l'homme, qui dénonce le fait de n'avoir pas été consulté par rapport à cette deuxième lecture par l'Assemblée nationale. Et ils craignent une confiscation du débat politique, du débat au profit d'un calcul politique. Bon. Maintenant, les prochaines étapes du processus. Tout dernièrement, le 2 décembre dernier, la discussion devait avoir lieu, en plénière devait avoir lieu sur le code. Mais la discussion a été renvoyée à la prochaine session, c'est-à-dire en 2011, à cause du temps de la double pression exercée à la fois par la société civile et par les hauts conseils islamiques. Au niveau de la société civile, certaines associations restent cependant actives, c'est le cas de l'Association malienne des droits de l'homme, qui est en collaboration avec le Royaume des Pays-Bas, a réalisé récemment un sketch par rapport à ce projet de code-là. Mais ce sketch n'était pas encore diffusé au moment de notre entretien. Ensuite, tout dernièrement, l'Association Malienne des Droits de l'Homme a présenté son rapport sur la situation des droits de l'homme au Mali des années 2008, 2009 et 2010. Et dans ces rapports, l'association déplore notamment ce qu'elle appelle une crise de l'autorité de l'État, dont une des manifestations, selon elle, est le recul apparent du gouvernement au sujet du code des personnes et de la famille, lesquels codes, avec les retouches annoncées, pourraient finalement remettre en cause les principes de la laïcité républicaine. Les rapports font état aussi des menaces de mort proférées à l'encontre des militants des droits de l'homme par les islamistes. Du côté du Haut Conseil islamique, on est entre réserve et sérénité quant à l'avenir du code. En effet, tout dernièrement, lors d'une cérémonie religieuse, le plus grand prêcheur du Mali, Chérif Ousmane Madani Haïdara, lorsque on lui avait posé la question sur l'avenir du code des personnes de la famille au Mali, il répondait que le débat était désormais clos et que le code sera conforme aux recommandations de la communauté musulmane du Mali. Bon, de son côté, le président du Haut Conseil islamique que nous avons tenté de joindre, celui-là, il reste un peu réservé parce que autant il a apprécié l'engagement personnel du président de l'Assemblée nationale par rapport à l'adoption du code selon leur point de vue, mais en même temps il est un peu réservé parce qu'il dit qu'on lui avait promis que le code serait voté lors de cette session parlementaire. Or, ce n'a pas été le cas et le code a été renvoyé pour une seconde lecture. Donc, il n'est pas finalement très sûr comment on dirait quant à l'avenir de l'adoption du code selon leur point de vue.
Je conclue tout de suite.
Voilà. D'autres, non, les commentaires que nous pouvons faire par rapport à l'avenir du code, il faudrait que certes les amendements adoptés et proposés ne sont pas encore adoptés, acceptés, mais les perspectives, selon de nombreux observateurs, restent en faveur des activistes de la communauté musulmane. En effet, on voit mal le président de l'Assemblée nationale faire une telle sortie avec une référence aussi précise au point d'accord dans son discours d'ouverture de session, sans prendre les minimums de précautions, alors même que ce ne serait que des simples propositions. En outre, la proximité de la prochaine élection présidentielle, à laquelle est probablement candidat le président de l'Assemblée nationale, si l'on s'en tient à ses déclarations, n'est pas pour jouer en faveur d'un code laïque. Les islamistes représentent un poids assez important de l'électorat malien. Ils ont mis en garde, voire menacé tous ceux qui voteraient les fameux codes, et leurs menaces sont visiblement prises au sérieux, surtout depuis l'attaque verbale très violente de ces prêcheurs dont nous avons déjà parlé, et lesquels n'ont jamais été inquiétés, même a été ensuite accueillis à bras ouverts, tant par le président de la République et par le président de l'Assemblée nationale. Donc, maintenant, tout le monde craint les foudres des activistes musulmans, les allusions dans la presse sont timides, les politiques craignent pour leur carrière, même la société civile perd de plus en plus de sa combativité. Et tout ceci laisse croire que dans les jours prochains, dans les mois prochains, le code pourrait être adopté par l'Assemblée nationale en prenant en compte, comme le disent, les aspirations de la communauté musulmane et compromettant du coup les principes de la laïcité républicaine. À moins qu'on laisse tomber carrément l'adoption du code, ce qui reviendrait au même problème, c'est-à-dire le maintien de la femme dans sa situation actuelle. Je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur, pour votre présentation très forte et intéressante qui soulève les difficultés de la mise en place des instruments qui garantissera vraiment les droits de la femme. Et aussi, je note que le cas de Mali n'est pas isolé. Dans nombre de pays, beaucoup de projets de loi, de code de la famille sont toujours restés dans le placard. Je vous remercie.